5, 4, 3, 2, unité, top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de
l'économie sociale a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
Et nous aussi, on connaît la langue du cinquième élément. Mes bons amis, bienvenue dans cette auberge espagnole du mardi 26 mars 2013. On partira tout d'abord avec Adeline Jimenez de l'Agence locale de l'énergie et Philippe Capelier, architecte diplômé, qui nous présenteront la visite d'un bâtiment basse consommation qui aura lieu ce vendredi. Et puis ensuite, on aura au téléphone la déléguée générale de l'Agence du don en nature, Stéphanie Goujon, qui nous présentera la première semaine du don en nature qui se déroule du 25 au 29 mars. Et qui célèbre à sa façon les 4 ans de l'Agence du don en nature. Les excellents boomcello dans cette auberge espagnole. Nous sommes avec Adeline Jimenez et Philippe Capelier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on est là pour parler bien d'une nouvelle visite de site exemplaire organisée par l'Agence locale de l'énergie. Ça aura lieu ce vendredi. Alors, Adeline Jimenez de l'Agence locale de l'énergie. Et puis, Philippe Capelier, vous êtes architecte. Vous allez nous parler de cette visite, de ce bâtiment BBC, en rappelant un petit peu le contexte, puisque que ce soit la nouvelle loi par rapport à l'isolation thermique, que ce soit les nouvelles contraintes environnementales sur la construction, etc. Les bâtiments neufs labellisés BBC, ce qui veut dire bâtiments de basse consommation, c'est dans les préoccupations de tous les urbanistes, de tous les architectes et puis des pouvoirs publics quand c'est eux qui doivent régler la note. Donc ça s'inscrit dans un cadre général, une évolution globale des constructions et de l'urbain.
Alors tout à fait, donc on organise cette visite vendredi dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Donc il y aura les journées de l'énergie qui auront lieu vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31. Et donc on organise cette visite pour montrer que avant tout la transition énergétique c'est construire des bâtiments qui vont consommer moins d'énergie puisque l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Et donc on va vendredi visiter un bâtiment exemplaire. Et donc on a avec nous Monsieur Capelier, l'architecte, qui va peut-être nous présenter un peu plus ce bâtiment.
Alors il s'agit d'une résidence qui répond à la loi Cellier, c'est-à-dire qui permet à des gens riches de défiscaliser un certain nombre de revenus, dans la mesure où ils sont propriétaires d'un logement qu'ils louent à des loyers encadrés. Et aujourd'hui, cette loi Cellier a évolué et les logements éligibles à cette loi doivent répondre à des contraintes énergétiques, dont la norme BBC. Il n'est pas la seule. Ce que je tiens à préciser, c'est que le point de vue de mon agence Blue Tango Architecture, c'est que on ne peut pas réduire l'architecture à un simple bilan thermique, c'est-à-dire que la prise en compte des dépenses énergétiques, des économies d'énergie, des conforts thermiques doit être quelque chose dans une démarche beaucoup plus générale. En l'occurrence, il s'agissait d'un promoteur privé, ça je tiens à le souligner, c'est-à-dire que ce promoteur privé a accepté de prendre les risques qui étaient dans le marché de l'immobilier, étant ce qu'il est contraint de faire un bâtiment pour autant exemplaire. Il est exemplaire à plusieurs titres. D'abord parce qu'il est cohérent, c'est-à-dire c'est une résidence qui donne sur un jardin intérieur protégé du bruit de la route. Il est cohérent parce que ce sont des petits logements qui correspondent au marché actuel, compacts, bien foutus, bien aménagés. Mais en plus, il offre à chacun de ses habitants une très grande surface. Chaque appartement, le plus petit appartement, a moins une surface de 15 mètres carrés, c'est-à-dire on offre à tous les gens une pièce extérieure, un véritable salon d'été, protégé par un système de claustrat qui fait qu'on peut s'isoler sur cette terrasse des vues extérieures. Et en plus de tout cela, il offre effectivement des performances énergétiques assez extraordinaires dans la mesure où la norme, pour faire simple, hein, le chiffre clé, c'est une consommation basée sur le chiffre de 50, okay, qui est dans le sud de la France, qui est abaissé à 40, et bien de cette norme, nous on est à 27. Mmh. Donc on a un bâtiment qui ne consomme absolument rien.
Et oui.
Ce qui est peut-être intéressant aussi de rajouter, c'est qu'en plus, il est chauffé par une chaufferie bois. Donc, c'est un chauffage collectif et au bois. Comme ça, il répond encore mieux aux exigences environnementales et il utilise aussi beaucoup d'énergie renouvelable. Donc, du bois et du solaire pour chauffer l'eau chaude sanitaire et le reste du chauffage quand il y a besoin.
Voilà, on avait évoqué justement la filière bois et puis les chaudières à granulats de bois, etc. Justement, avec la LE, l'année dernière, c'était l'objet d'un café climat. Comment on arrive... parce que l'architecture, c'est aussi, on va dire, c'est la solidité du bâtiment, c'est aussi son esthétique, son aspect. Est-ce que les contraintes, là, pour ce bâtiment qui est pourvu d'une isolation thermique extérieure, par exemple, est-ce que les contraintes d'isolation, les contraintes environnementales sont faciles à marier avec les impératifs de l'architecte qui est de faire un bâtiment fonctionnel, solide, mais aussi esthétique.
Alors je vais vous répondre peut-être de façon un petit peu globale. Moi je pense que la vraie révolution de l'architecture en ce moment, c'est que pour l'architecture occidentale jusqu'à maintenant, l'architecture est un défi à la nature. C'est-à-dire que les œuvres humaines, les pyramides d'Égypte, les châteaux forts sont une opposition, un défi par rapport aux éléments naturels. Et là, les problèmes de pollution, les problèmes de surconsommation nous imposent de faire avec. C'est comme si on passait en quelque sorte du bateau à moteur à la navigation à voile. C'est assez extraordinaire. Donc on fait avec les éléments. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il faut encore une fois dépasser le simple aspect thermique pour dire on offre un confort global, quelque chose d'agréable. Comme je vous ai dit, tous ces logements se prolongent par une terrasse, mais ces logements, s'ils sont économes l'hiver, sont frais l'été. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, je constate malheureusement que les bâtiments qui sont exemplaires du point de vue énergétique ressemblent à des prototypes, vous savez, comme des voitures tunées dans lesquelles on met des élargisseurs d'ailes, des antibrouillards, et puis c'est un truc mochasse comme ça bricolé. Donc là, sur ce bâtiment, on essaye d'intégrer tous ces paramètres, toutes ces techniques de construction pour faire une réponse architecturale très simple, sobre, élégante, qui puisse, dans le temps, ne pas dire son âge. C'est ça qui est important. C'est qu'on ne va pas faire des trucs olé-olé, des petits bidouillages. On va faire en sorte que toutes les dispositions énergétiques soient intégrées dans le bâtiment.
Avec, j'imagine, toute une bonne part faite à des matériaux soit pas nécessairement nouveau en tant que tel, puisqu'on a vu le retour de divers matériaux naturels comme je sais pas, la paille pour faire des murs de maison ou le chanvre textile qui revient aussi pour des matériaux. J'imagine qu'il y a aussi toute une panoplie de nouveaux matériaux ou d'anciens matériaux reconditionnés à la sauce moderne que vous êtes amené à utiliser.
Alors dans ce cas précis, et malheureusement je vais vous décevoir, non. C'est-à-dire que dans, dans le marché très, très difficile de la promotion immobilière, mon promoteur a pris avec nous des risques déjà assez énormes d'un bâtiment qui coûte plus cher parce qu'il est plus performant. Mmh. Là aussi il ne faut pas raconter n'importe quoi, si on veut avoir quelque chose de qualité, c'est normal qu'on le paye plus cher. Mmh. Et donc pour pouvoir le construire ne pas dépenser déjà ces contraintes, on s'est adressé à des techniques de construction assez traditionnelles. Du béton, du polystyrène, je suis désolé de le dire, du bois aussi bien sûr. Mais notre agence Blue Tango Architecture travaille dans le domaine de l'environnement durable depuis longtemps et en particulier nous avons édifié un certain nombre de bâtiments publics en bois. C'est-à-dire que je crois dans la région, on est assez peu à le faire. On a fait par exemple des bureaux comme ça et des laboratoires pour le CIRAD. On a fait des halles des sports qui sont toutes en bois. Et là, c'est un matériau qui est plus naturel, effectivement, qui est par essence renouvelable et qui, par ailleurs, est toujours sympathique. Donc, même si nous ne sommes pas des ayatollahs du bois, c'est une technique de construction qu'on apprécie bien. Ailleurs, pour d'autres raisons, on a fait des bâtiments qui sont, du point de vue énergétique, parfaitement d'exemplaires et dont leurs parois sont en ferraille. Mmh. On est en train de terminer un insectarium qui est une boîte de fer. Voilà.
D'accord. Cette visite aura lieu donc ce vendredi 29 mars à 14h. Où est-ce que se trouve ce bâtiment ?
Alors en fait, vous le saurez
en vous inscrivant.
En vous inscrivant, exactement. Donc c'est sur inscription. Vous pouvez téléphoner à la LE au 04 67 91 96 96 du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h pour vous inscrire.
Voilà, donc est-ce qu'il y a une capacité maximale pour que les gens s'inscrivent ?
Oui, pour l'instant il reste encore des places, donc profitez-en parce que c'est vraiment un beau bâtiment qui nous donne plein d'exemples et vendredi on aura une très belle visite.
Est-ce que... Oui ?
Moi j'avais une petite demande, si on conclut là ou...
On va pas tarder.
J'ai une petite demande, vous savez, mon agence s'appelle Blue Tango Architecture. Hein, c'est en référence à un crooner italien qui s'appelle Paolo Conte, que je trouve remarquable. Oui. Donc j'espère qu'à la fin de cet entretien, vous pourrez nous passer un petit morceau de Paolo Conte.
Eh bien, nous essaierons de fouiller dans notre mémoire radiophonique pour trouver effectivement un titre de cet excellent compositeur italien qu'on ne voit pas beaucoup d'ailleurs par ici. Il doit avoir un âge canonique maintenant. S'il est presque...
Plus que mon agence.
Très bien, alors on rappelle que pour s'inscrire à cette visite de site exemplaire qui aura lieu ce vendredi 29 mars à 14h, c'est au 04 67 91 96 deux fois, 04 67 91 96 deux fois qu'il faut téléphoner. Est-ce que la prochaine visite de site exemplaire est déjà programmée ?
Alors oui, il y en aura une qui va se faire en partenariat avec la ville de Clapiers pour montrer l'école de Clapiers qui aura elle aussi une chaufferie bois. Mmh. Donc voilà, il faudra s'inscrire auprès de la mairie de Clapiers et c'est réservé en priorité aux habitants de Clapiers. Mmh. Et il y en aura une aussi le 1er juin sur une maison individuelle rénovée cette fois-ci. Donc il y a eu une isolation thermique par l'extérieur qui a un chauffe-eau solaire et un poêle à bois.
Peut-être pour terminer, vous disiez justement, quand on veut un bâtiment de qualité, il faut forcément mettre un petit peu plus de sous dans le budget. Mais finalement, si on a un bâtiment qui vieillit bien, qui a une bonne stabilité dans le temps, on va sans doute éviter d'avoir à revenir dessus. On va sans doute éviter, voire même des procédures judiciaire entre les locataires mécontents, le propriétaire récalcitrant, etc., etc. Et donc, puis on voit bien certains immeubles construits il y a une vingtaine d'années ou etc. qui ressemblent déjà plus à rien. Il y a eu effectivement une grande époque où on construisait des trucs qui se fissuraient au bout de 2 ans, etc. Donc finalement, est-ce que ça coûte réellement plus cher de payer plus cher au début, ou est-ce que l'adage pas cher coûte cher s'applique aussi dans le bâtiment?
Il est évident que l'amortissement intervient très rapidement, d'autant que tout laisse à penser que le prix de l'énergie va de toute façon augmenter, de façon accélérée même. Donc il y a un gain évident de réaliser des bâtiments de cette qualité-là. Là où c'est sûr que là où le promoteur est exemplaire, c'est qu'il a diminué sa moins-value par rapport à une construction plus simple. Mmh. Mais pour les acquéreurs, c'est extrêmement avantageux.
Merci beaucoup. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces informations, bien évidemment, sur www.ale-montpellier.org. On va vous souhaiter une très bonne visite. Philippe Capellier, merci. Adeline Gimenez, merci. À très bientôt sur les ondes de Divergence. Au revoir.
Avvenne per caso in una stradina moderna sotto la pioggia. Gli ombrelli che fanno zoom, zoom, zoom. L'universo fa boom, boom, boom. Lui una canzone francese, lei una rossa risata irlandese. Piovvero languidi giorni. Piovvero languidi giorni. Sì, ma io dove ero andato, tutto mi sarei guardato, ne avrei scritto anche meglio di così. Lui era un loden portato da una dolcezza senza rimpianti, da studi classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un cavallo, un gatto, un'ondata di mare nordico al sole, vestita come uno vuole, vestita come uno vuole. Belle gambe lei e un po' di fumo azzurro lui, col permesso degli dèi. Gli dèi dei belli sogni, gli dèi dei belli anni, gli dèi dell'amore rosso, del fuoco nelle sottane, architetture lontane. La vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese, gli ombrelli che fanno zoom, 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 e l'universo fa boom, boom, boom.
Architetture lontane, c'est une architecture lointaine, si je ne me trompe pas. Le grand Paolo Conte, pour faire plaisir à notre architecte qu'on invitait juste avant. Et à présent, on parle de la semaine du don en nature. Nous sommes en ligne avec Stéphanie Goujon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la déléguée générale de l'Agence du don en nature. On vous avait reçu le 18 décembre dernier pour parler de votre action aux alentours des fêtes de Noël. Pour ceux qui avaient raté ce rendez-vous et qui n'écoutent pas assez assidûment Divergence FM, peut-être rappeler un petit peu la mission de l'Agence du don en nature, dont la spécialité, peut-être pour faire simple, vous me corrigerez, est d'aller récolter tout ce qui d'habitude part au pilon ou je ne sais où, auprès des entreprises et plutôt des très grandes entreprises.
Alors, c'est tout à fait ça, Gilles. En fait, nous, pour prendre une métaphore simple, on fait la même chose que la banque alimentaire, mais dans le non alimentaire. Donc on a créé une passerelle entre les entreprises d'une part et les associations qui luttent contre l'exclusion d'autre part. Et dans ce cadre, on fait trois choses. Un, comme vous l'avez dit, on va démarcher les industriels pour récupérer leur stock résiduel, leur code promotion, leur fin de série, des choses qui effectivement étaient souvent vouées à la destruction. Deux, on les stocke et on les met sur un site de commande en ligne. Ce n'est pas un site de e-commerce, c'est un site de e-don. Et trois, on les redonne à des associations caritatives sur toute la France. Et donc dans ce cadre, on a pu déjà redonner 22 millions d'euros de produits en équivalent valeur marchande. Et on a un grand projet ADN 2015, Agence du Don en Nature 2015, c'est de redonner 100 millions d'euros de produits à fin 2015. Vous voyez, il y a du pain sur la planche.
En ce moment, on parle souvent quand des grandes entreprises comme, je sais pas, par exemple des pétroliers se mettent à faire du solaire, on parle de greenwashing. On avait un petit peu abordé ça l'autre fois. Alors d'une part, il faut pas s'offusquer du fait que les entreprises aussi se donnent bonne conscience en participant à cette générosité. Mais d'autre part, il y a aussi de la sincérité chez eux.
Oui, tout à fait. Moi, je vois monter en puissance une conscience des dirigeants d'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, aucune société n'a envie et ne peut faire abstraction d'une précarité qui est malheureusement croissante en France et qui touche des catégories qui étaient jusque-là épargnées. Qu'on pense aux étudiants, aux jeunes diplômés, qu'on pense aux mamans solo avec leurs enfants, aux travailleurs précaires, aux petites retraites. Donc, aucune entreprise peut faire abstraction de ça par rapport à son bassin d'emploi. À un moment donné, ça devient aussi son problème. Donc, du coup, il y a effectivement des pratiques qui se mettent en place. Et aujourd'hui, nous, on cherche à se faire connaître davantage du tissu industriel, puisque les grosses entreprises, c'est les premières qu'on a été voir, bien sûr, mais on est convaincu qu'il y a plein de PME en France qui ont envie de donner, mais qui ne savent pas forcément comment faire.
Parmi les actions que vous menez pour mener cette mission à bien, il y a la semaine du don en nature qui se déroule à l'échelle nationale du 25 au 29 mars 2013, donc ces jours-ci. Une semaine avec des spots géographiques définis qui sont appelés, j'imagine, à se multiplier.
Oui, exactement. En fait, il va se passer quatre choses dans la semaine du don en nature, qui est une semaine destinée à mobiliser davantage d'entreprises. La première chose, c'est qu'on va publier les résultats d'une étude, d'un sondage qui a été fait par OpinionWay auprès d'une centaine de PME de biens de consommation durable pour dire, voilà, il y a un faible pourcentage d'entreprises aujourd'hui qui donnent parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des filières sécurisées comme l'Agence de la Nature pour écouler leurs invendus. Donc ça va être une première chose qu'on va faire. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, Gilles, on va avoir 5 actions dans 5 grandes régions de France, puisque l'idée, c'est de pouvoir constituer des sortes de hubs régionaux avec des correspondants locaux, bénévoles, qui nous aident à coordonner les opérations pour avoir plus d'impact social, pour avoir plus d'associations dans notre réseau et pour aider plus de personnes en difficulté. La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on publie un petit livret qui sont des témoignages d'entreprises engagées à nos côtés depuis le début pour montrer la palette de motivation qu'il peut y avoir et bien sûr faire des émules auprès des PME pour dire il y a plein de bonnes raisons à devenir partenaire de l'Agence du Don en Nature. Et la dernière chose, ce sera un grand débat, mais qui a lieu à Paris le 28 mars au soir sur les enjeux économiques et sociaux de l'aide non alimentaire. Parce qu'on parle beaucoup d'aide alimentaire, mais il ne faut pas oublier que vivre dignement, c'est aussi pouvoir se laver les cheveux, avoir des vêtements propres, avoir des stylos neufs pour aller à l'école, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu notre credo aujourd'hui, c'est de parler, de faire parler de l'aide non alimentaire.
Cette idée de faire une semaine, à l'instar de beaucoup de manifestations qui se focalisent souvent en printemps, là, on est en pleine semaine de l'environnement à Montpellier. Comment l'idée d'occuper cette période au mois de mars pendant une semaine a germé puis mûri?
Alors, il y a quelque chose de très factuel, c'est qu'en fait, c'est nos 4 ans. déjà. C'est les 4 ans. On s'est lancé en mars 2009 au niveau opérationnel. Donc chaque année, on fait quelque chose pour témoigner auprès de tous nos partenaires de où on en est, de nos enjeux, comment il faut qu'on continue à se retrousser les manches. Et puis, je vais être très honnête avec vous, j'avais pas une grande fenêtre de tir parce qu'il y a les vacances de Pâques d'un côté, il y a les vacances d'hiver de l'autre, il y a la semaine du développement durable qui effectivement est là, donc je voulais pas que ce soit noyé un peu dans tous ces événements-là qui sont importants, hein, mais du coup, je voulais qu'on ait un petit peu plus de fenêtres, d'espace, de surface d'expression, donc c'est comme ça qu'on a choisi cette semaine du 25 au 29 mars, et parce que donc c'est un peu nos 4 ans aussi, quoi.
Pour cette semaine du don en nature, sur le site, on peut accéder très rapidement à comment faire, qu'on soit une entreprise ou une association. En parlant de ces associations, puisque l'objectif, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est de faire évoluer le maillage sur le territoire et puis finalement de travailler en synergie avec les associations qui existent localement, ce qui n'est pas nécessairement encore le cas dans tous les départements, ou je me trompe ?
Alors c'est pas le cas. Aujourd'hui on touche toute la France, mais on essaie de consolider, si vous voulez, de massifier les flux dans des zones clés et dans des zones aussi où on a des relais. Et d'ailleurs je sais qu'il y a quelqu'un de Montpellier qui est un candidat bénévole qui nous avait contacté suite à l'entretien qu'on avait eu en décembre dernier, et donc je suis très contente parce qu'on va pouvoir comme ça construire. Nous on a besoin d'avoir des relais locaux parce qu'on ne peut pas tout gérer de Paris, donc on fait beaucoup de visites terrain, et à un moment donné il faut aussi qu'on ait des gens sur place, parce que le grand engagement qu'on prend aussi vis-à-vis des industriels, des entreprises, c'est que les associations qui bénéficient des produits sont des structures sérieuses et que les produits ne vont pas se retrouver sur les marchés parallèles. Et que vraiment, ça va aux personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté en France. Je rappelle qu'on a 8,6 millions. Donc du coup, ça c'est important pour nous d'avoir des gens sur place qui peuvent nous recommander des associations, qui peuvent identifier les besoins aussi, savoir de quels produits vraiment on parle, et puis qui peuvent aussi faire un suivi et vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de dérive, si vous voulez. Donc ça, c'est très important dans notre modèle qu'on puisse avoir ces relais, ces correspondants locaux.
J'imagine bien que vous êtes en contact dès qu'il y a des entreprises qui produisent des biens de consommation non alimentaires. Par contre, il y a des zones en France, notamment à Montpellier, où il y a pas d'entreprise. Est-ce que aussi les biens de consommation entre guillemets immatériels, comme je sais pas moi des séjours en vacances, des voyages, etc., sont aussi sollicités?
C'est une bonne question, mais c'est vrai que pour l'instant, nous on n'a pas souhaité se diversifier à ce niveau-là, parce que on a déjà tellement de besoins sur des produits de nécessité courante comme les lessives, comme le linge de maison, comme la vaisselle, comme les gels douche, que voilà, on est vraiment plus sur le bien manufacturé, si vous voulez. Alors, on peut, un jour, je pense qu'on pourra venir à d'autres types de produits immatériels. Mais à ce stade, on reste focalisé sur cette mission de base, parce que déjà, on n'a pas assez de produits par rapport à la demande. Donc, on veut vraiment chercher à convaincre de nouveaux donateurs sur ces aspects, sur ces produits-là. Et ce qu'on va essayer, j'espère aussi cette année, de mettre en place, c'est de voir comment on peut travailler avec certains distributeurs. Parce que jusqu'à présent, on est uniquement avec les industriels, les entreprises, mais ça peut être intéressant de travailler aussi avec les magasins. Et là, il y a un vrai enjeu de territorialisation et de voir comment on peut massifier les flux à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que nous, notre entrepôt, il est dans le centre. Et donc, il faut remonter les produits jusque là-bas. Donc, il faut qu'on ait une organisation logistique pertinente. Voilà. Donc déjà, des gros enjeux sur les produits manufacturés, les biens immatériels, je pense que ce sera pour un peu plus tard.
Voilà, on retrouve évidemment tous les renseignements sur adnfrance.org. Pour les entreprises, elles peuvent composer le 01 76 21 10 51.
Non, ça c'était l'ancien numéro de téléphone. Ah. On a bougé, pardon. 01 80 48 90 50, le nouveau. 01 80 48 90 50.
Parfait, c'est le numéro de téléphone que peuvent composer les entreprises pour cette semaine du don en nature qui se déroule du 25 au 29 mars 2013. Stéphanie Goujon, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne campagne. Moins de gaspillage, plus de partage, c'est le slogan de l'agence du don en nature.
Merci beaucoup Gilles.
Au revoir.
Au revoir.
Et pour illustrer bien le fait de ne rien gaspiller, c'est AIM qui nous dit « Ain't got time to waste », même le temps ne se gaspille pas.
Getting hot, thinking when they pop, my name drop. Ain't gonna rock the spot, but they got. See you when my team top, rap charts to pop. What you saying ain't mine, so it doesn't mean a lot bigger. When they go by this, my pockets get bigger. Money legal, to keep my hand off a gun trigger. Stick up your eardrum, not your purse for my bank account. Funds need lots of ones, about a million of them. Retired when about 30, now the only time I guard up my yard is when my hand's dirty. Pardon the French, but call metallic. Rhymes vary, from here to Napa Valley. Squash grapes, make papes, make no mistakes. I hate fakes, we'll take it, got time to waste. Check it, if you're wasting my time, to be surprised.